C'est trop calme. J'aime pas trop beaucoup ça. Je préfère quand c'est un peu trop plus moins calme.
You talking to me? You talking to me? Then who the hell else are you talking to? Talking to me?
Moi, j'ai dit bizarre. Comme c'est bizarre.
Eastwood. Clint Eastwood.
Marcello! Come here!
Bonjour à toutes. J'ai un gros chat dans la gorge. Et à tous, bonjour, bonjour. Nous sommes le mardi 14 janvier 2025 et vous êtes bien, je dirais même très bien, sur Odeur Radio 91.3 à l'écoute de votre émission de cinéma favorite, à savoir Ciné-100, bien sûr. Alors comme nous sommes le 14 janvier, il est encore temps de nous souhaiter les meilleurs vœux du monde. Paix et prospérité sur la terre, harmonie et amour dans les familles, bref, l'arsenal qui revient curieusement tous les 1er janvier. Et tout cela est généralement accompagné de bonnes résolutions. Alors moi, je devine aisément celle de mes petits camarades avec moi dans le studio. Anne-Lise va nous promettre de ne plus bafouiller, de ne plus écorcher des noms imprononçables. Bonjour Anne-Lise.
Bonjour Patrick.
Comment allez-vous?
Très bien et vous?
Bah, je suis parfaitement
parfait, bien.
Et quant à Jean-Jacques, lui, il se fera un devoir de ne plus se moquer de ses petits camarades. Bonjour Jean-Jacques.
Bonjour Jean-Jacques. Oui, bonjour Patrick.
Je vais m'appeler Patrick, c'est moi.
Non mais c'est pas pour me moquer, c'est pour dans un souci de progression.
Bien sûr.
Jean-Jacques, vous êtes là à Nice, bonjour.
J'entends. Ah tiens, je vous avais pas vu.
Bon, et moi, je vous fais la promesse de ne rien vous promettre du tout. Allez, pour cet épisode 14 de la saison 6 de Ciné-100, retour dans l'année 95.
Alors, il s'agit bien de l'année 1995.
Oui, pas 1895, voilà. On est bien d'accord.
Eh bien, cette année débute mal, puisque le 17 janvier, au Japon, un séisme secoue la ville de Kobe et ses environs. Cette catastrophe est à ce moment-là la plus importante de l'histoire contemporaine du pays. On dénombre un total de 6 434 décès, plus de 40 000 blessés et plus de 316 000 déplacés. Ouais.
Une autre forme de déplacement, celui d'Hélène Marie Collins, qui le 3 février devient la première astronaute de l'histoire de la conquête spatiale à piloter une navette. Honneur à elle.
Bravo. Alors, retour sur Terre le 19 avril, la détonation d'un véhicule chargé d'explosifs aux abords d'un édifice d'Oklahoma City provoque l'attentat terroriste le plus meurtrier de l'histoire des États-Unis.
Début de journée, en plein centre d'Oklahoma, une violente explosion et cet immeuble de 9 étages s'effondre. Un immeuble qui abritait des services du FBI, les services secrets américains, mais aussi une crèche. L'explosion a été très violente, elle a été entendue à 50 km de là. Ça bougeait vraiment beaucoup et je me suis précipité hors de mon bureau. Partout, il y avait des éclats de verre, partout, par terre, dans tous les bureaux.
Je suis bouleversée et je vais prier pour tout le monde.
Nos hommes sont dans l'immeuble et nous entendons les blessés crier. Ils crient et ils nous appellent, nous essayons de les rassurer du mieux possible, dit ce pompier. Et pour expliquer la catastrophe, il y a cette dizaine de voitures garées juste devant l'immeuble, des traces d'explosion et un cratère de 2 mètres de profondeur. Selon le FBI, l'une d'entre elles contenait 500 kilos d'explosifs. Une explosion qui a provoqué des scènes de panique. Mais paradoxalement, le pire a peut-être été évité puisqu'une deuxième bombe qui n'a pas explosé aurait également été retrouvée, mais dans l'immeuble, celle-là. Le FBI enquête déjà dans plusieurs directions et des menaces d'attentats seraient parvenues aux autorités fédérales qui ont donc renforcé les mesures de sécurité dans les autres immeubles du FBI. Plusieurs dizaines de personnes sont encore sous les décombres. Le bilan sera donc très lourd.
Oui, l'attentat fera finalement 168 morts et près de 700 blessés. Un ex-militaire, Timothy McVeigh, sera reconnu coupable et condamné à la peine de mort. Il sera d'ailleurs exécuté en 2001.
Oui.
Tout à fait. On passe à autre chose.
Oui, allons-y, soyons positifs.
Dans un Japon futuriste régi par l'Internet, le major Motoko Kusunagi, une femme cyborg ultra perfectionnée, est hantée par des interrogations ontologiques. Elle appartient, malgré elle, à une cyberpolice musclée dotée de moyens quasi illimités pour lutter contre le crime informatique. La traque, se déroule sur fond de guerre des services de la section 9 face à la section 6, une unité rivale, cette dernière s'intéressant aussi au Puppet Master dans le cadre d'un projet mystérieux, le projet 2501.
C'est bien mystérieux, en effet.
Tout à fait. Le jour où sa section retrouve la trace du Puppet Master, un hacker mystérieux et légendaire dont l'identité reste totalement inconnue, la jeune femme se met en tête de pénétrer le corps de celui-ci et d'en analyser le ghost, un élément indéfinissable de la conscience, apparenté à l'homme, à l'âme, dans l'espoir d'y trouver les réponses à ses propres questions existentielles.
A Ghost in the Shell, c'est un film d'animation de Mamoru Oshii, qui est sorti en novembre 1995. Vous pardonnerez les erreurs que je fais sur la prononciation des mots japonais. Il s'agit de l'adaptation cinématographique du manga du même nom de Masamune Shirō. Après le succès des deux adaptations de Pat Labor, Mamoru Oshii écrit un pitch, ce qui deviendra Jinro, réalisé par Hirokuki Ikeui, à peu près, dans, à mes souhaits, et Yukura.
Yukiura,
voilà, c'est ça. Voilà.
Au moment de présenter son idée à Bandai Visuel, la société de production tokyoïste, celle-ci lui impose de travailler sur le projet d'adaptation du manga Ghost in the Shell. Oshii, qui connaît déjà le matériau de base, s'applique alors à traduire visuellement les idées très complexes du manga. Les décors de la ville de Newport City, au Japon, où se situe l'action, sont imaginés par le directeur artistique du film Hiromasa Ogura. Celui-ci s'est inspiré de Hong Kong et notamment de la citadelle de Kowloon, ainsi que d'une ville imaginaire dessinée par Takashi Watabe.
Très bien dessinée d'ailleurs.
Tout à fait.
Alors à la question que pourraient éventuellement se poser quelques-uns et quelques-unes d'entre vous, c'est quoi un manga ?
C'est une bonne question.
Eh bien voici une réponse.
C'est quoi un manga ? Les mangas sont des bandes dessinées japonaises, des albums de petit format, à la couverture souple avec des centaines de pages. Certains comme Dragon Ball Z, Pokémon ou Naruto sont mondialement connus. Au Japon, les mangas sont d'abord publiés par épisode dans des magazines. Certaines séries atteignent des dizaines de volumes. Un manga, ça se lit à l'envers, de droite à gauche. Le dos du livre devient la couverture. On poursuit la lecture des pages, des cases et des bulles dans le sens inversé. C'est le sens de lecture japonais. Quand on ouvre un manga, les dessins sont souvent en noir et blanc. Les personnages sont très expressifs, avec de grands yeux pour faire passer des sentiments. Les dessins sont dynamiques. Des personnages déformés, tout petits ou énormes, qui expriment des émotions souvent exagérées. Des séries de lignes parallèles montrent le mouvement, la vitesse, ou mettent en valeur les personnages. Pour signaler le bruit des baskets, des nouilles que l'on mange, et même d'un sourire, les onomatopées sont très utilisées. Certaines sont impossibles à traduire en français.
Largement considéré comme l'un des plus grands films d'animation de tous les temps, les critiques ont particulièrement salué les effets visuels du film, obtenus grâce à une combinaison d'animation celluloïde traditionnelle et d'animation CGI. Allez, Kezako.
Alors, petite info technique du coup, CGI, ce sont des effets spéciaux numériques cinématographiques.
Attendez, je note.
Oui, alors allez-y. Hein. À base de programmes informatiques d'animation et d'images de synthèse. En gros, c'est les images de synthèse qu'on voit actuellement, maintenant.
D'accord.
Voilà. Oui. Petite anecdote, le film a été initialement un échec au box-office.
C'est pas possible.
Eh oui, bah si, pourquoi, comme quoi. Hein. Bon, c'est pas trop, avant de devenir culte à la suite de sa sortie en vidéo, générant un chiffre d'affaires d'environ 43 millions de dollars. Comme quoi, il ne faut jamais désespérer.
Il ne faut jamais désespérer,
hein,
de la vie. Oui. C'est ce que je vais gagner ce soir au loto.
Oui, 43 millions.
Alors, le film a inspiré des cinéastes tels que James Cameron et les Wachowski, vous savez, les créateurs de Matrix.
Oui.
Alors, le générique avec les lettres en vert, par exemple, vous savez, ce qui défile à l'écran, est inspiré par Ghost in the Shell.
Autre influence, en 98, la chanson King of My Castle de Wamdu Project sera accompagnée d'un clip qui reprend les séquences de Ghost in the Shell. La chanson, comme le film, aborde la question des liens entre la conscience et l'inconscient au sens freudien.
Examples of
Alors, retour, oui, on va replonger dans le calendrier de 1995 avec une spéciale page sport.
Ah, oui.
Le 6 mai,
oui.
Le Stade Toulousain est champion de France de rugby pour la 12e fois.
Toulousain.
Et le lendemain, Jacques Chirac est élu à la présidence de la République française.
Il y a un rapport entre
aucune
les deux.
Aucune relation de cause à effet.
Super.
Heureusement.
Sinon, je veux tu bébé. Alors, une équipe de France de sport collectif est championne du monde. Oui. Jusqu'à présent, cela n'existait pas. Eh bien, le 21 mai, l'équipe de France de handball le fait.
Oui, le 24 juin, après un an après l'élection de Nelson Mandela, l'Afrique du Sud est l'hôte de la Coupe du monde de rugby. Eh bien, l'événement prend une dimension politique quand Mandela veut une victoire de son équipe pour souder le pays. Et il obtiendra cette victoire en galvanisant ses joueurs qui créeront la surprise en battant la Nouvelle-Zélande.
Ah oui, revoir Yves Dictus pour ça.
Le sport a le pouvoir de guérir les blessures. Le sport a le pouvoir de guérir les blessures, disait Mandela. Ce 24 juin 1995, alors que tout un stade scande son prénom, Nelson Mandela porte le maillot des Springboks. L'équipe nationale de rugby, longtemps symbole de l'Afrique du Sud blanche, participe ce jour-là à l'émergence d'une nation. Une histoire immortalisée par Clint Eastwood dans son film Invictus.
Comment peut-on motiver tous ceux qui nous entourent ?
Qu'est-ce qu'il voulait ?
Je crois qu'il veut qu'on gagne la Coupe du Monde.
Et ils vont la gagner. Le destin d'une nation qui allait remporter la première Coupe du Monde de son histoire contre la Nouvelle-Zélande, devant son public. Le Français Bernard Lapassé, président de la Fédération internationale de rugby, doit alors remettre la Coupe au capitaine sud-africain. Mais il choisit de la remettre d'abord à Nelson Mandela.
Cette Coupe, ce n'était pas simplement une victoire sportive. C'était aussi la victoire de Nelson Mandela dans sa façon extraordinaire de faire vivre un événement autour des valeurs du sport, autour de la dimension sociale que représente le rugby, que représente le sport, à ce moment-là, d'unifier la population, de rétablir la paix sociale dans un pays.
Un moment d'émotion, de communion. La victoire d'une nation, incarnée par Nelson Mandela.
Eh oui, changement de registre, Usual Suspect est un film policier réalisé par Bryan Singer, oui, 4 à 3, est sorti en 1995. Alors, il met en scène une brochette de malfrats plus ou moins brillants, et le pire de ces moins brillants étant un petit escroc minable qui s'appelle Roger Verbolkint. Cette bande a été réunie suite au vol d'une cargaison d'héroïne appartenant à un redoutable bandit qui a pour nom Kaiser Soze.
Ce Kaiser Soze est un homme d'une grande cruauté que personne n'a jamais vu, ni même entendu. Il transmet ses consignes via son avocat, l'énigmatique Kobayashi. Même s'il est quasiment impossible de pitcher le film, nous allons tenter de le faire.
Et ça va pas être coton.
Oui,
allez, Jean-Jacques.
Sur le pont d'un cargo dans le port de San Pedro, en Californie, un homme blessé du nom de Keaton discute avec une silhouette qu'il nomme Kaiser. Ce dernier tire ensuite sur Keaton avant de mettre le feu au navire. Il s'ensuit une description minutieuse du braquage par le quintet choisi par Kaiser Soze. Le lendemain, un agent fédéral et un agent spécial des douanes arrivent pour enquêter sur le massacre qui a eu lieu à bord du cargo. Et il n'y a que deux survivants, un petit escroc infirme appelé Verbolkint et un Hongrois gravement brûlé et de ce fait hospitalisé. Bande annonce.
Vous connaissez la procédure maison. À l'appel de votre numéro, faites un pas en avant et lisez haute voix la phrase qu'on vous a donnée. Vu ? Numéro 1, un pas en avant.
Donne-moi les clés, espèce d'enculé.
Et numéro 2, un pas en avant.
Donne-moi les putains de clés, putain d'enculé de ta mère, d'enfoiré, hein !
Ta gueule !
Il dit que sa vie est en danger. Il a vu le diable.
Kaiser Soze !
Il a parlé de Kaiser Soze ?
De qui ? Qui est Kaiser Soze ?
Il n'y a pas de Kaiser Soze.
On n'est jamais sûr. C'était tout son pouvoir.
Il était dans le port.
Il a tué beaucoup de monde.
Si je t'entends répéter ce nom-là, je te descends tout de suite.
Comment tu tues le diable d'une balle dans le dos ?
Je ne crois pas en Dieu, mais j'avoue qu'il me fait peur. Moi, je crois en Dieu. Et la seule chose dont j'ai peur, c'est Kaiser Soze. Et d'un coup, il s'envole.
Alors, Bryan Singer a choisi délibérément d'opter pour une construction non linéaire. On passe du présent au passé, avec même des flashbacks dans ce passé. Bref, on s'y perd un peu, mais c'est jubilatoire. Les personnages sont super bien écrits et super bien joués, avec une... Vous êtes d'accord, Annelise ?
Oui, complètement.
Avec une palme pour Kevin Spacey, qui est fallot, mais alors comme jamais, et dans le rôle de Verbolkint. Verbal parce qu'il est bavard, hein. Voilà, tout simplement.
La réalisation est maîtrisée,
oh oui.
Ah, oui. Surtout au niveau du rythme. Le film est bref, à peine 100 minutes et rapide, même dans les moments où les dialogues sont nombreux. Les scènes d'action sont rares, mais elles sont très marquantes. Elles sont toujours placées au moment idéal pour relancer l'attention du spectateur.
Et alors là où Singer montre un vrai talent, c'est dans sa façon de jouer avec le scénario, de ne jamais rendre le film incompréhensible ou trop complexe, et ce, grâce à une habile mise en scène ainsi qu'à une certaine science du montage, usant de divers flashbacks et passant d'un lieu à un autre avec un claquement de doigts. Mais c'est surtout le scénario qui flamboie dans le film. Le moindre détail se révèle important. Rien n'est innocent, rien n'est un hasard. C'est à la fois jouissif et machiavélique. Jouissif car machiavélique.
Et bon, je vais rajouter que le suspense est maintenu par deux énigmes entremêlées.
Ouais.
Que s'est-il passé sur le bateau? Et qui est Kaiser Soze?
Ah non, on ne dit pas son nom.
L'atmosphère sombre et émouvante, vous savez, ça me rappelle les films noirs de l'âge d'or hollywoodien. Les différents lieux et les personnages disparaissent pour revenir dans un laps de temps assez court. Le sentiment de fascination est de plus en plus fort. Plus le récit s'avance, tout comme les questionnements et la recherche du moindre détail chez le spectateur.
Et alors là, franchement, force est d'admettre que Kaiser Soze, c'est un vrai coup de génie.
Bah, bien sûr.
Bah, j'en dirai pas plus pour rien dévoiler aux quelques personnes qui habitaient sur Mars et qui n'auraient pas encore vu le film.
Non,
surtout pas.
D'accord.
Vous ne l'avez pas vu, Lily? Non, alors voyez-le et on en reparlera la semaine prochaine. Mais Kaiser Soze, franchement, c'est énorme. The Faces of His Family de John Ottman fait partie de la bande originale du film.
Combien de fois j'ai vu les mêmes films qui repassent comme ça, deux, trois fois dans l'année. Moi, je trouve que c'est dingue.
Et oui, vous l'avez reconnu, notre petit jingle de télé,
petit.
Ciné, canapé. C'est... On va vous parler, en tout cas, des films que l'on peut voir à la télé qui nous plaisent cette
et
semaine.
Quand on est assis sur un canapé ou sur un fauteuil.
Ah ouais, bah oui, si ou on par pas
terre. Si on n'a pas de canapé,
ça peut être par
comme...
terre, sur un pouf
sur
ou
un
une
pouf.
Pouf.
Ouais, une
enfin,
pouf.
Voilà.
Ou sur une tondeuse à gazon.
Ou sur une tondeuse à gazon,
absolument.
Tout à fait. Allez, on commence par
allez,
ce
bah par
soir.
Ce soir, bien sûr. Alors ce soir.
Alors ce soir.
Moi,
oui.
j'ai rien. Moi, j'ai.
Ah, allez-y.
Aussi. Alors, j'ai 20h50 sur Ciné Plus Family. 20h50.
D'accord.
À 21h
oui,
moins 10,
oui.
En gros.
Oui.
C'est un film d'Yves Robert avec Philippe Cobert, Nathalie Roussel.
Ah, c'est Marcel Pagnol.
Oui, c'est La gloire de mon père.
Ah, super.
Bon,
super.
Tout le monde connaît, pas
oui,
besoin
oui,
de nous
pas
raconter
besoin
l'histoire.
De pitcher,
hein, bon,
ouais,
voilà.
Il faut voir le château de ma mère après.
Après, il faut voir le château de ma mère, oui.
Après, Jean de Florette, Manon Desources. Après, voilà, vous les faites.
C'est pas du tout pareil, Lise.
Non, Yves Robert et Claude Berry, c'est pas les mêmes.
Oh, ça va.
Bon, moi, je vous propose d'aller sur Canal Plus Cinéma à 19h05
oui.
Pour voir La fiancée du poète de Yolande Moreau.
Yolande Moreau, oui.
Ah, oui.
Alors, c'est l'histoire de Michel qui travaille à la cafétéria des Beaux-Arts de Charleville-Mézières et qui vit un peu de larcin et de trafic de cigarettes et pour payer l'entretien de sa maison dont elle a hérité. Et elle choisit trois colocataires pour amortir les frais qui vont changer sa vie. Et un quatrième qui va revenir, qui est son grand amour de jeunesse et qui est un poète.
Alors, d'accord.
Avec Yolande Moreau, Grégory Gadebois, Sergi Lopez,
Grégory
François
Gadebois.
Morel et même William Scheller dans un petit rôle.
Grégory Gadebois, j'adore oui.
Mercredi.
Allez, mercredi.
Mercredi, j'ai.
Moi
j'ai.
Aussi, RMC Story.
Non, allez-y. Oui.
21h10 avec Charlize Theron, Tom Hardy, un film de George Miller. Mad Max Fury Road.
D'accord.
Bah,
je pensais
oui.
qu'on parlait de cinéma.
Mais on parle justement de cinéma. On revient à la franchise Mad Max avec un film qui reprend quand même bien l'univers des premiers films de Mad Max avec tout le côté punk, etc.
Avec Franck Dubosc et tout ça.
Non, il n'y a pas Franck Dubosc.
À vous, Patrick.
Allez, à vous, Patrick.
Je pense qu'on a le même, Jean-Jacques, peut-être. Non, 21h Arte.
Non, pas du tout. Moi, c'est à 13h35.
Ah, bah, alors moi, j'ai 21h... Alors, 13h35 d'abord.
C'est parce que le mercredi après-midi, il n'y a pas école. Donc, pour les gamins, on peut voir Le Capitaine d'André Nebel, un grand classique du genre KPP des années 60, où le plongé très romancé, attention, dans la France de Marie de Médicis et de Louis XIII, avec évidemment Jean Marais, Bourville.
Oh là là, bien sûr. Pierre classique, quoi.
Ouais, tout à fait.
Bon, et alors, vous, 21h, 21h sur Arte, un film magnifique de Stephen Frears, Philomena.
Ah oui.
Super. Avec Judi Dench.
Oui.
Alors, en Irlande, en 52, Philomena Lee, encore adolescente, tombe enceinte. Elle est rejetée par sa famille et est envoyée au couvent de Roskea. En compensation des soins prodigués par les religieuses avant et pendant la naissance, elle travaille à la blanchisserie et elle n'est autorisée à voir son fils qu'une heure par jour. Et à l'âge de 3 ans, celui-ci est arraché pour être adopté par des Américains.
Très bien.
C'est un film très puissant.
Jeudi. Moi aussi. Alors allez-y, je vous laisse la parole. Allez, Jean-Jacques.
Alors moi, je vous propose traditionnellement un petit documentaire chaque fois, vous savez. Et ici, en voici un à 21h10 sur France 4, « Ni juge, ni soumise », Guy Vinant et Jean Libon. Alors, en fait, on suit le parcours d'une juge un peu hors norme, quoi, qui a été filmée pendant un an dans son travail quotidien, mais aussi dans la reprise d'un cold case, l'assassinat de non élucidé de deux prostituées en 1999. C'est une affaire qui est classée, mais qui n'a pas été prescrite. Donc, la juge en question s'y plonge dedans. C'est très informatif sur le secteur de l'instruction et de la justice.
Très bien.
Très bien.
Et vous, alors, Patrick ?
Moi,
sur Chérie 25, à 21h05, j'ai le film Passion de Grand Corps Malade sur, un jeune espoir, en fait.
Du basket.
Oui. Qui se retrouve tétraplégique en plongeant dans une piscine.
Il n'y avait pas d'eau.
Et on va le suivre, en fait, dans toute sa rééducation et dans toute sa relation à l'autre. Comment est-ce qu'il va réapprendre à vivre avec son handicap ? Comment est-ce qu'il va réapprendre à vivre avec aussi les autres face à son handicap ? Et c'est une très, très, très belle histoire. C'est un petit film, mais très grand.
D'accord. Bon, au moins 21h, Paris Première. James Fargo, Clint Eastwood, L'Inspecteur ne renonce jamais, Dirty Harry. Voilà, ça c'est vite fait.
Ça, en plus, c'était jeudi et voilà qu'on arrive à vendredi.
On arrive à vendredi, figurez-vous. C'est le retour du Jedi.
Vendredi, France 5.
France 5.
Oui, à 21h05.
Oui. Bien sûr.
Alors, Claude Chabrol,
on a tous les trois le même, donc voilà.
Une affaire de femme.
Bah oui.
François Cluzet, Barry Trintignant, Nils Tavernier, Dominique Blanc, Lolita Chamaille.
Vous oubliez
Isabelle
Huppert.
Non, moi je l'ai dit.
Sur cette
magnifique.
Magnifique grande histoire de
des avortements illégaux
de femmes
pendant la période de Vichy
tout à fait
parce qu'il y avait une époque où les avortements étaient illégaux
surtout pratiqués par des gens dont c'était pas la profession
en plus.
Bon, ça, c'était
mais par contre, les marchands de parapluies ont bien progressé.
En tout cas, c'est un très grand film, mais si vous pouvez, il faut le regarder.
Voilà.
Vraiment très beau. Une affaire de femme de Claude
Chabrol. Ou le revoir si on l'a déjà vu.
Oui, tout à fait.
Bon,
samedi.
Je vais vous dire, samedi, dimanche, je ferme la télé. À vous.
Moi, 13h30 sur Arte.
Eh bien, c'est tout.
Un des plus beaux films que j'ai pu voir, Bernardo Bertolucci.
Ah, le L'Arbre aux sabots.
Non. Avec John Lone, Joan Chen et Peter O'Toole.
1900 ?
Le dernier empereur.
Ah oui, ah, c'est pas le meilleur de Bertolucci.
Ah,
mais c'est bien.
Oui, mais
c'est quand même, c'est fastueux,
c'est vrai, très chouette film.
Voilà.
Oui.
Ensuite, Annie, vous avez quelque chose ?
Non, moi dimanche, j'ai quelque chose.
Aussi, oui.
Moi dimanche, j'ai quelque chose sur Arte à 21h.
Oui, j'ai le même.
À quelle heure ?
Avec 21h avec Charlize Theron. Robert De Niro.
Non, Sharon Stone.
Sharon Stone,
ah bon,
pardon.
Voilà, c'est pas
Sharon Stone, peur. Robert De Niro. Oui, alors 5 tout de suite. Casino.
Joe Pesci et James Wood aussi.
Ouais.
De Casino, Martin Scorsese.
Tout à fait. Dans le Las Vegas des années 70, on va suivre en fait...
D'accord.
Voilà, on va suivre
l'évolution en fait. Bah alors le milieu un peu mafieux en
un
fait
peu,
de
beaucoup.
Cette beaucoup mafieux de ce casino et de un peu tous ces gens qui
un
gravitent autour. Oui, oh, mais puis, arrêtez.
Et puis surtout de cette femme qui vient complètement mettre cette, ce dirigeant de casino sous sa coupe et au point de dilapider complètement son pognon. Et, c'est, et ça, c'est Sharon Stone, qu'on
tout
a revu d'ailleurs il n'y a pas très longtemps dans Basic Instinct.
Oui.
C'était bien.
Bon, ça, c'était dimanche.
C'était dimanche.
Oui, lundi.
Lundi, j'ai quelque chose.
Moi
oui.
aussi.
Allez-y.
À 21h05.
Oui.
Sur France 3.
Sur France 3.
Sur France 3. De Spielberg.
Oui, voilà.
Allez. La avec Liam Neeson.
Alors ?
Bon, ben, on va pas en parler. Tout le monde
non,
connaît,
très grand film
tout le monde
aussi,
le connaît,
très
oui.
triste.
Il est bien
très
de se documenter par ces périodes où on remet tout en question et où les choses n'existent pas. Et la preuve, c'est que...
Avec une interrogation majeure dans ce film, quand même,
oui.
c'est pourquoi le manteau de la petite fille est rouge alors que le film est en noir et blanc.
Oui, voilà.
Je vous laisse une semaine et la semaine prochaine, vous répondez à la question.
Ben, on le sait, il y a plein en fait, d'objets comme ça.
Alors, en attendant, on va retomber en 1995, où le 11 juillet, l'année de l'armée de la République serbe de Bosnie investit la ville de Srebrenica en Bosnie-Herzégovine, même si cette ville avait été décrétée zone protégée par les Nations Unies, ben les soldats se livrent à un massacre puisqu'ils tuent plus de 5000 personnes.
Oui, carrément. Et deux semaines plus tard, un attentat commis par des islamistes algériens fait 8 morts et 92 blessés à la station RER Saint-Michel à Paris. Et c'est le début d'une vague d'attentats.
Pas terrible, comme le mois de juillet.
Oui, pardon, vous disiez quoi ?
Je dis, c'est pas terrible comme le mois de juillet.
Non,
non
c'est
non,
sûr.
Non, il y a mieux.
Tout à fait. À Couers, bourgade du Var, le 23 septembre, Éric Borel, âgé de 16 ans, assassine 3 membres de sa famille, puis 12 personnes de son village. Il se suicidera le lendemain. Restons dans l'irrationnel, avec le 23 décembre dans le Vercors, le suicide collectif de 16 adeptes de l'ordre du Temple solaire.
En 95, on meurt beaucoup.
On meurt
belle
beaucoup,
année aussi. Hein, ouais.
Belle année 95.
Allez, ensuite.
Plus gay. Pendant que NTM connaît ses premiers succès, que le phénomène des boys bands reprend de l'ampleur, et que Janet et Michael Jackson signent le clip le plus cher de l'histoire pour la vidéo de Scream, Jeanne Calment, le samedi 26 août, a 120 ans et 238 jours. Et avec cet âge-là, elle devient la personne la plus âgée ayant jamais vécu. Tiens, écoutez-la, elle parlait de sa rencontre avec Van Gogh.
Vous avez connu Van Gogh ?
Oui.
Racontez-nous comment vous l'avez connu.
J'ai connu à la fin du jour. À tout à fait à la fin. Il était laid, il était brûlé par l'alcool.
Où est-ce que vous l'avez connu?
Il venait au magasin, il payait encore un peu. Il venait chercher les toiles.
Et c'est Van Gogh qui les choisissait?
Ah oui, c'est lui qui les choisissait.
À l'époque? Il était connu, Van Gogh, en ville?
Oui. Il fracassait les autres sur les rances pour boire.
C'était un alcoolique piété. Alors mon mari me dit, monsieur Van Gogh, je vous présente ma femme. Et il n'a pas quitté ses toiles. Il était assis. Il fripotait ses toiles. Il se retourne, il me regarde. Il dit, ça va. J'ai dit, ça, Van Gogh? Quelle déception. L'aide d'insécure, elle bonnait jusque-là. Mon Dieu, qu'est-ce que...
Pourriez-vous être assez aimable à l'heure qu'il est, au jour où nous sommes, et étant donné ce que nous savons, de me dire sur quelle longueur d'onde on vous attrape ?
Sur 91.3, O2 Radio, bien entendu.
Je reviens juste un peu en arrière.
Reviens en arrière.
Parce que dans une deuxième partie de l'interview, elle a une voix un peu plus alerte. Il faut dire que la première partie a été enregistrée, elle avait 120 ans, la première partie, elle avait 110.
Oui, c'est quand même, c'est 10 ans de moins.
Mais c'est...
C'est énorme.
C'est une perle.
C'est extraordinaire.
Vous n'avez pas connu Van Gogh, vous
Non, je connais son père.
D'accord, oui. Bon, Lucien allez, Van l'année Gogh. 1995 restera gravée dans les annales du cinéma comme une période riche en créations marquantes où les grands réalisateurs ont redéfini les limites de leur art et où le public a été témoin de films qui continuent d'influencer le 7e art aujourd'hui.
Tandis qu'Hollywood renforce son hégémonie, les voix émergentes des cinémas européens et asiatiques se font entendre avec une intensité nouvelle. La technologie joue également un rôle essentiel avec l'animation par ordinateur et les effets visuels atteignant de nouveaux sommets. Cette année aussi marquée par une réflexion sur les fractures sociales, les tensions identitaires et la transformation technologique.
Alors du côté américain, 95 voit l'émergence de Toy Story, réalisé par John Lasseter, premier long métrage entièrement animé par ordinateur. Ce chef-d'œuvre produit par Pixar a inauguré une nouvelle ère pour l'animation et devient culte avec sa réplique « Vers l'infini et au-delà ».
C'est dit comme ça ?
Il le dit comme ça. D'accord. Avec plus de 18 millions de spectateurs, le film se classe directement comme film d'animation culte.
Dans un registre plus intime, Before Sunrise de Richard Linklater a su capturer la magie des rencontres humaines avec une sincérité rare. L'histoire d'amour entre Ethan Hawke et Julie Delpy à Vienne est devenue l'un des récits romantiques les plus emblématiques du cinéma moderne. Clint Eastwood tourne également un trait romanesque sur la route de Madison.
Ah bah oui, quand même.
Robert, j'espère que tu m'en voudras pas de te demander ça, mais je sens qu'il le faut.
Quoi?
Eh bien, c'est ces femmes que tu as dans tes voyages, comment ça marche? Est-ce que tu en revois certaines, ou tu en oublies d'autres? Ou tu écris certaines, de temps en temps? Comment tu organises ça?
Qu'est-ce que tu veux dire?
Je veux juste connaître tes habitudes, la procédure. Je ne veux pas changer tes habitudes. Prends un peu de confiture.
Pourquoi est-ce que tu parles d'habitude? Il n'y a pas d'habitude. Est-ce que c'est ce que tu crois?
C'est comment, alors?
Mais ça ne tient pas à moi. C'est toi qui es mariée. Tu n'as pas l'intention de quitter ton mari.
Pour faire quoi? Pour m'enfuir avec quelqu'un qui a besoin de tout le monde, mais de personne en particulier? Je veux dire, qu'est-ce que ça m'a...
Oh, le samedi.
Tu peux me passer le beurre, s'il te plaît?
J'étais en train de parler avec ma camarade.
Oui, on parlait cinéma, de ciné-club.
Ouais, tout à fait. Qui, voilà.
Bon, alors donc, qu'est-ce que vous voulez dire de plus?
Moi, rien.
Du côté européen, 1995 a été marqué par des films qui reflètent les tensions sociales et les aspirations des populations. La haine,
par exemple.
De Mathieu Kassovitz, oui, est sans doute l'exemple, comme vous dites, le plus saisissant. Ce portrait brut des banlieues françaises porté par Vincent Cassel, Hubert Koundé et Saïd Takmaoui résonne bien au-delà des frontières françaises, n'est-ce pas?
N'est-ce pas? L'Italie, quant à elle, offre l'après-midi d'un tortionnaire de Tornatore, un hommage poignant aux rêves cinématographiques et à ceux qui en sont porteurs. Le film rappelle la puissance des récits pour transcender les réalités brutales.
Le cinéma asiatique n'est pas en reste. Wong Kar-wai conquiert la critique internationale avec Les Anges déchus, un film qui explore l'isolement et l'amour dans un Hong Kong nocturne et désenchanté. Sa photographie stylisée, son montage frénétique en font une œuvre culte.
Alors au final, 1995 est une année qui a laissé une empreinte indélébile sur l'histoire du cinéma. Elle a réuni des films audacieux, innovants et émotionnellement résonnants qui continuent de captiver les spectateurs et d'inspirer les cinéastes du monde entier.
Côté musique, cette fois-ci,
oui.
Le 14 juin, c'est un triste jour, puisque c'est le jour où décède le guitariste irlandais Rory Gallagher à l'âge de 47 ans.
Ah.
Alors quand on demandait à Jimi Hendrix « qu'est-ce que ça fait d'être le meilleur guitariste du monde ?», il répondait « je sais pas, demandez à Rory Gallagher ».
Ah, excellent.
Rory, le voici dans « Stomping Ground ».
Thank you.
long. Get the door wide open and you'll hear the train I'm on. I've been better. Lord, I've been strong. But I feel so good this morning I'm going back to my stomping ground. Well, I hear the river's falling, the bridge is broken down. The weatherman's heartbroken, but even he can't stop me now. I've been bitten, and I've been stung. Hey, but I feel so good this morning, I'm going back to my stomping ground.
Alors moi, je vous conseille d'écouter, si vous aimez Rory Gallagher, d'écouter
très bien, hein.
L'album live de sa tournée européenne en 1974, je crois.
Oh, mais je n'étais pas né encore. Ouais,
voilà. Moi non plus.
Alors, quand la tragédie rejoint le sport, oui. Le Tour de France 95 est endeuillé le 18 juillet par le décès de l'Italien Fabio Casartelli, qui se tue pendant la descente du col de Portet d'Aspé.
Absolument.
Cette étape la plus attendue a donc commencé dans le drame avec ce matin la chute mortelle de Fabio Casartelli, 25 ans, champion olympique à Barcelone.
Immobile et pratiquement déjà sans vie, Fabio Casartelli gît même le sol dans une mare de sang. À ses côtés, d'autres coureurs impliqués dans une chute terrible. On est au 34e kilomètre de la 15e étape du Tour de France. Au détour d'un virage de la descente du Portet d'Aspé, le drame a frappé. Manifestement, l'Italien a heurté une des bornes en béton qui longe la route. Le choc le plonge alors immédiatement dans un coma profond. Difficile de savoir ce qui s'est vraiment passé. Écart, crevaison, faute. En tout cas, sans casque sous la chaleur aujourd'hui, Casartelli ne se relèvera pas. Il avait fêté son 25e anniversaire il y a deux jours. Les secours pourtant sont arrivés très vite. Soigné sur place, puis évacué par hélicoptère, Casartelli sera victime de trois arrêts cardiaques pendant son transfert. Le décès sera prononcé officiellement à 14h. Professionnel depuis deux ans, Casartelli est le premier coureur à décéder sur le Tour depuis Tony Simpson en 67.
Mourir à 25 ans pour faire sa passion.
Bah, mourir déjà, c'est con. Alors,
cinq jours plus tard, bien l'Espagnol Miguel Indurain remportera ce cinquième tour consécutif, son cinquième.
Oui.
L'inventaire de la rubrique nécrologique recense aussi des personnalités du monde littéraire, puisqu'en 95 décèdent Jean Tardieu, Patricia Highsmith et Hugo Pratt.
L'aventure se termine le 7 mars pour l'explorateur Paul-Émile Victor. Le 17 juillet, nous quitte Juan Manuel Fangio, cinq fois champion du monde de Formule 1.
Et le cinéma n'est pas en reste avec les disparitions de Ginger Rogers, Lana Turner, Charles Denner, Louis Malle, Dean Martin et celle qui fut la sorcière bien-aimée, Elizabeth Montgomery.
Allez, changement de registre.
Oui.
En ce 22 septembre, New York est sous une couverture nuageuse épaisse avec 10 degrés à peine. Quand sort en salle le dernier film de David Fincher, Seven.
Ah. Pardon. Seven, comme les sept péchés capitaux auxquels se réfère un serial killer qui tue ses victimes selon un rituel particulier. La gourmandise, l'avarice, la paresse, l'orgueil, la luxure, l'envie et la colère. Chacun des meurtres est effectué en relation avec l'un de ces péchés, censé représenter tout le côté sombre d'un monde que le criminel John Doe s'évertue par ses méfaits à nettoyer.
Ça va pas mieux.
Ça va pas mieux du tout. C'est plus un chat, c'est un tigre. Il se voit ainsi comme un justicier qui nettoie la société des maux qui la rongent.
Pour conclure sa carrière, l'inspecteur Somerset, alias Morgan Freeman, vieux flic blasé, tombe à 7 jours de la retraite sur ce criminel peu ordinaire. En binôme avec l'inspecteur David Mills, l'excellent Brad Pitt, il résoudra les 7 meurtres en 7 jours. Tout ça sous fond de torture vengeresse et d'une inquisition sadique. Et évidemment, il y a cette fin qui participe pleinement à la mythologie autour du film et qui va consacrer Kevin Spacey. En fait, il est spécialiste des fins un peu mystérieuses.
C'est vrai.
Qu'on retrouve donc Kevin Spacey en prince du dénouement homérique. Le reste de la distribution comprend entre autres Gwyneth Paltrow et Robert Lee Emery. C'est ça.
Oui.
Voici la bande-annonce.
L'inspecteur William Somerset est en fin de carrière, tandis que l'inspecteur David Mills en est à ses débuts.
D'ici mon départ, nous serons ensemble 24 heures sur 24. Bientôt, je pourrai te dire qui sont tes amis et tes ennemis.
À présent, ils sont victimes d'un jeu.
Aucune empreinte, aucun témoin d'aucune sorte.
Certes parti. La seule chose que nous connaissons à son sujet, c'est qu'il est fou à lui.
Où le prix du péché est la mort.
Il y a 7 péchés capitaux. La gourmandise, l'avarice, la paresse, la colère, l'orgueil, la luxure et l'envie. 7.
Il y a eu 2 meurtres, il faut s'attendre à 5.
On a trouvé le corps mardi matin.
Il faut trouver qui a pu faire ça.
Il y a encore 2 autres corps, 2 autres victimes.
Ce gars est méthodique, méticuleux. Et surtout patient.
Il se fout de notre gueule.
Encore 2 meurtres et il aura achevé son chef-d'œuvre.
Son heure est arrivée.
Brad Pitt, Morgan Freeman, Gwyneth Paltrow, dans un film de David Fincher.
Vous avez déjà vu une chose pareille?
Non.
7.
Jamais.
Jamais. Le film s'amuse à suggérer la violence plutôt qu'à la montrer. Il marque l'avènement du réalisateur David Fincher au niveau international. Il réussit le tour de force de rendre un trailer puissamment esthétique alors qu'il est émaillé de scènes sanguinolentes, parfois gore. Le polar se situe dans une ville façon mégalopole à l'américaine avec sa violence qui ne choque plus personne.
D'accord.
Elle a la noirceur de New York, qui pourtant n'en est à aucun moment nommée dans le film. Le tournage a d'ailleurs eu lieu à Los Angeles.
Avant que ça brûle.
Paix à son âme.
Fincher, en fait, avec ce film, creuse déjà une vision désenchantée du monde contemporain. Et bah, il va poursuivre dans cette démarche, dans ce sillon, avec ses 3 films suivants, The Game, Fight Club, que vous aimez beaucoup.
Ah bah oui.
Ah bah oui.
Et Panic Room.
Ah oui, ah bien, bah oui. Panic Room. Et alors, petite anecdote concernant Kevin Spacey.
Encore oui.
Oh oui, encore
oh là
lui,
là,
oui.
On n'arrête pas de parler de lui.
Alors, savez-vous qu'il a été décidé de ne pas l'inclure dans les crédits lors du générique du début, afin de garder le mystère sur l'identité du tueur? En revanche, il est crédité en premier lors du générique de fin.
Attention, anecdote, ah anecdote, anecdote.
Oui, 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 oui.
La victime cadavérique qui est allongée dans le lit que Brad Pitt et Morgan Freeman découvrent avec stupeur.
Oui.
Eh bien, cette victime est un vrai comédien et non pas une personne composée numériquement.
Avec plein de mouches autour.
Voilà. Eh bien, la production engagea pour l'occasion un acteur très maigre que l'équipe de maquillage rendit méconnaissable après plusieurs heures de travail. Et au final, ben, le personnage, qui est entre guillemets la victime de la paresse, apparaît détruit physiquement, maltraité et affamé, seul dans sa chambre depuis plusieurs mois.
Chanson présente dans le film, oui. I Cover the Waterfront, est interprétée par Billie Holiday.
Yes.
City that hurts and mocks. I'm standing alone by the desolate docks in the still and the chill of the night. I see the horizon, the great unknown. My heart has an ache, it's as heavy as stone. Will the dawn coming on make it light? I cover the waterfront. I'm watching the sea. Will the one I love be coming back? Do you remember? Will you return? one I love must soon come back to me.
Tiens, tiens, bonsoir. Alors, t'étais aux premières loges ? C'est génial ce genre de spectacle, hein ?
Ça, c'est vrai, ça.
Allez, vous l'avez reconnu, ce petit jingle ?
Ah, c'est le même que tout à l'heure. Mais si on ne le reconnaît pas, qu'est-ce qu'on fait ?
Eh bien, je vais vous le dire.
Allez, bon.
Laissez-moi parler.
Oui, allez,
taisez-vous.
Parlez.
C'est pour.
Oui.
On va vous donner, des films qui sortent
vous
en salle.
Vous allez donner des films ?
Mais demain soir, on va vous. 3 films. Voilà, on a choisi des films qui sortent demain soir. Demain, il y a des films qui sortent demain matin au cinéma.
Demain soir, ils sortent demain matin.
Demain matin, vous me fatiguez. Oui. Arrêtez de parler, vous m'embrouillez.
Bon.
Voilà.
D'accord.
Vous avez compris l'histoire.
On va essayer de faire une.
En fait, ça fait 3 ans que ça dure, donc on a fini par comprendre.
Mais on y va court, on fait court.
On fait court. Alors,
on fait quoi ?
Vous avez quoi, vous ?
Côté court.
Annelise ?
Alors, moi, j'ai un film qui s'appelle Je suis toujours là.
Mais il sort demain matin, c'est ça ?
De Walter Salles.
D'accord. Ah oui !
Avec Fernanda Montenegro, Fernanda Torres et Stelton Mello. Rio 1971, sous la dictature militaire, la grande maison des Paiva, près de la plage, est un havre de vie, de paroles partagées, de jeux, de rencontres, jusqu'au jour où des hommes du régime viennent arrêter Rubens, le père de famille, qui disparaît sans laisser de traces. Sa femme, Eunice, et ses 5 enfants mèneront alors un combat pour savoir la vérité.
Oh, très bien.
Ça fait peur.
Très chouette film. Et puis ça reprend un peu le tout.
Vous l'avez vu ?
Non, j'ai vu la bande-annonce.
Ah, mais non, puisqu'il sort demain.
Bah oui.
Vous êtes fatiguant un petit peu, hein, vivement que ça
s'arrête. Jean-Jacques, vous avez promis de ne plus vous moquer de vos petits camarades.
Je taquine, Annelise. Parce que
bon, alors vous, dites-nous.
Je savais très bien de quoi on allait parler dans cette séquence. Moi-même, j'ai préparé un.
Oh, c'est pas possible. Oui. Et alors, c'est lequel ?
Ça s'appelle Spectateur.
Oh, très bien.
D'Arnaud Desplechin avec Mathieu Amalric. Alors, c'est un objet de curiosité, un peu, ce film, a priori. Parce que Desplechin, il répond à la double question. Qu'est-ce que c'est d'aller au cinéma ? Et pourquoi allons-nous au cinéma depuis plus de 100 ans ? Dans Ciné-100, c'est bien.
C'est bien comme référence.
Le film, voilà. Le film est en fait la célébration des salles de cinéma par le biais de l'apprentissage d'un jeune spectateur. Et ça commence par un souvenir propre à Desplechin quand sa grand-mère l'a amené pour la première fois au cinéma. Voir, lui, c'était Fantomas.
Fantomas ?
Ouais, Fantomas.
De Une Belle ? Avec Jean Marais.
Oui, c'est ça. Oui, oui, tout à fait. Moi, c'était Bénure, je me rappelle.
Bénure. Ouais. Ah oui, moi, c'était, je ne sais plus.
Moi, la première séance de cinéma dont je me rappelle, c'est un Disney.
Bambi.
C'est... Non, pas du tout.
Vous avez vu Bambi ?
Taram et le chaudron magique.
Mon Dieu. Ah, voilà. Mais vous êtes très jeune.
C'était dans les années 80, ça.
Ah bah bien sûr, je dirais même 82, 83, quelque chose comme ça.
Ah, vous aviez 15 ans déjà à l'époque.
Allez, dites-nous votre film.
Alors
Patrick.
Moi, j'en ai 3, mais je vais en choisir un.
Oui, vous en choisissez un.
Je vais choisir un film de Annick Jean avec Léane. Ça sort demain matin, donc on pourra le voir demain soir. Oui. Avec Léane Labrèche d'Or, Jean-Simon Leduc et Emma Lafrenière. Et Else,
vous parlez allemand, excusez-moi,
qui est une jeune femme d'une vingtaine désabusée, est surprise par la dernière volonté de sa mère de retrouver ses 5 ex-maris pour disperser ses cendres à 5 endroits distincts. Elle n'aura pas d'autre choix que de renouer avec ses anciens beaux-pères et de même avec son paternel avec qui elle est en froid depuis trop longtemps. 5 urnes, 5 lieux, 5 hommes. Son aventure ne sera pas de tout repos, mais lui permettra de se réconcilier avec son passé et d'apprivoiser peu à peu ses propres démons.
C'est un film
de Annick Jean.
Ah oui, d'accord.
Et je trouve que c'est l'idée de ces 5 personnes pour reconstituer un passé. Je trouve que c'est extrêmement intéressant. Voilà.
De retrouver
Merci
ses racines.
Beaucoup,
de retrouver ses racines.
Patrick.
Eh bien, figurez-vous, on ne vous le dira jamais assez.
Mais si.
Ciné 100 dure 50 minutes.
Oui.
Bon, 55 quand il y a du vent. Hein. Bon, ce temps-là est écoulé et nous allons rendre l'antenne à Cognac Jet, comme on le disait à l'époque. Oh. À vous, Cognac Jet, à vous, les studios.
Oui.
Nous avons encore des chocolats à manger. Sans doute un sapin à donner à des chèvres ou à des gorilles, car figurez-vous qu'il paraît qu'ils en sont très friands, les chèvres et les gorilles. Et c'est promis, nous, on se retrouve dès la semaine prochaine pour un nouvel opus de Ciné 100 qui sera consacré au polar.
Et ce sera sur Aude Radio 91.3, bien entendu.
Bien entendu. Alors, on se quitte comme tous les mardis depuis le début de cette saison avec la chanson perle du jour.
Oui, alors, Jean-Jacques,
que nous avez-vous déniché cette fois-ci ?
Alors, aujourd'hui, c'est du lourd. C'est du très lourd que je vous propose. Je ne suis même pas sûr que ce ne soit pas du deuxième, voire du troisième degré.
C'est pire que la fois dernière ?
Oui.
Parce que quand même, plus ça va, plus on creuse. Hein.
Oui.
Alors, en 95, ou à peu près... Hein, sortez une chanson, ou à peu près, intitulée « Toi et pas une autre ».
Ah oui.
Elle est l'œuvre de l'illustre inconnu nommé Gérald.
Allez, à mardi prochain et en attendant, bon vent à tous.
Et moi je venais d'arriver. On s'est regardé et on a flashé comme si l'on se connaissait depuis des années. Que c'est beau de tomber amoureux, le temps que ça durera on sera heureux. Même si la distance nous sépare, je prends des leçons de conduite. Avant je pouvais vivre seul, j'avais des aventures sans lendemain. Que c'est beau de tomber amoureux avec toi et pas une autre. Oh oh. Adriano Celentano. Et quand elle a ouvert la bière avec le briquet, là j'ai craqué. Que c'est beau de tomber amoureux, le temps que ça durera on sera heureux. Même si l'on est loin de l'autre, je viens d'avoir mon permis. Avant je pouvais vivre seul, je fréquentais des filles, mais je m'en fous. Que c'est beau de tomber amoureux avec toi et pas une autre. Toi et pas une autre. Je me sens si bien, je me force pas à te prendre la main. Nous ne sommes pas comme ces couples qui restent ensemble uniquement par peur d'être seuls. Notre amour rime avec poésie, notre amour ne rime pas avec jalousie. Et tous les autres seront hors jeu, car je t'aime. Que c'est beau de tomber amoureux, le temps que ça durera, on sera heureux. Même si chez toi c'est pas tout près, j'achèterai.